Dans Mondes Imaginaires, on ne vous parle pas d'aventure, on vous parle de quête. C'est vachement plus héroïque.
Bienvenue, chers auditeurs. Mondes Imaginaires est de retour après une pause estivale. Nous avons bien profité, nous avons bien lu, surtout. Et aujourd'hui, nous vous invitons à ne pas baisser votre garde, à être prêt à frapper et à vous dresser contre les injustices. Venez combattre avec les trois mousquetaires, courir sur les toits avec Faustine de Castellac, souffrir avec Benvenuto et rire avec De Cap et De Croc. Et oui, vous l'aurez compris, notre première thématique de la saison est De Cap et d'Épée. Embarquez avec Mondes Imaginaires. Et on commence cette saison avec une actu nommée « Le Lys Noir, tome 1 Faustine », signée par François Larzem. Alors François Larzem était connu auparavant sous un nom de plume, le nom d'Éphémère. Ce livre, « Le Lys Noir », est paru le 24 août 2017 chez Mouton Électrique, qui nous a gentiment envoyé le bouquin pour qu'on puisse un petit peu en parler.
On aime bien les maisons d'édition qui sont chouettes comme ça avec nous.
Oui. Et alors, sur ce coup-là, c'est une assez bonne surprise. Parce qu'alors, faut vraiment pas m'en vouloir. Hein, mais alors, si on lit le quatrième de couverture, on enchaîne les clichés et on se dit, ouf, ça va pas voler bien ouf.
Donc et toi, à la base, ça te motivait pas vraiment de le lire?
Non, en fait, non. Et puis, ça me motivait pas des masses. Et en fait, j'ai commencé et j'ai eu l'impression tout d'un coup de me retrouver dans un film. Parce que François Larzem a une plume très simple. Alors, très simple, ça ne veut pas dire bête. Hein. C'est très simple, c'est-à-dire qu'il nous permet de nous transporter très très facilement dans le monde qu'il crée. Il n'utilise pas des mots hyper recherchés, il ne cherche pas à montrer sa maîtrise de la langue française. Non, non. Tout simplement, il nous ouvre un monde, une cité. Il nous présente des personnages et on a l'impression d'être dans un film. Les scènes s'enchaînent comme si on était dans un film. Alors, c'est du young adulte. Alors, moi, j'aime bien. Surtout que, vous le savez, j'ai un petit peu de peine quand on prend les jeunes lecteurs pour des idiots. Et alors là, c'est vraiment sympa. Ça change un peu et ça fait plaisir de voir un roman de cap et d'épée adapté pour les jeunes sans qu'on parte dans le gnangnan insupportable. Larzem, c'est un habitué aussi des jeunes, parce que jusqu'à maintenant, il a publié des livres pour enfants qu'il illustre lui-même. Donc, l'homme a plusieurs talents. Mais de quoi parle ce bouquin? Le Lys Noir, c'est le nom d'une justicière, dont le vrai nom est Faustine de Castellac, qui est la dernière d'une lignée de justiciers. C'est une combattante redoutable et elle a pour mission de déjouer les plans de Monzague, le bras droit de l'empereur, empereur qui ne se préoccupe pas vraiment de son royaume. Donc on a une justicière tout en cuir, oui c'est le petit détail un petit peu cliché, mais une justicière tout en cuir, des combats à l'épée, des inventions complètement folles, des méchants sans cœur, un souverain bête et irresponsable, des alliés mystérieux et séduisants. Donc vraiment un casting de fou. Je vous l'ai dit, le style est léger, pas prise de tête, ça se laisse tout à fait lire. Et le gros, gros, gros avantage, c'est que ce n'est pas une traduction. Notre auteur est francophone, donc ça fait du bien d'avoir un auteur qui écrit pour les jeunes, sans les prendre pour des crétins, avec un scénario assez original. Et alors, un élément que j'ai trouvé assez chouette, c'est qu'il fait intervenir des tziganes, des gitans, qui, pour moi, sont des personnages pas mal oubliés de la littérature fantasy fantastique en ce moment. Et là, ça fait plaisir de retrouver un peu ce côté exotique, comme on avait avec, dans le Bossu de Notre-Dame, Esmeralda ou La Cour des Miracles. C'est assez chouette de retrouver ces éléments-là.
Et ils ont un rôle particulier ?
Alors, oui, parce que... on va faire un mini-spoil. L'un de ces jeunes gitans est le fils adoptif du roi des gitans et en fait très très lié à ce méchant sans cœur, Monzag. Donc, on se retrouve avec des personnages qui se croisent, qui s'entremêlent, etc. C'est assez chouette. Et moi, il me manque quand même un petit quelque chose qui m'a empêché de m'immerger complètement profondément. Et en fait, j'ai mis ça sur le compte de mon âge. Je me fais vieille, en fait. Je me fais un petit peu vieille pour du young adult. Et faute à mon imaginaire, hein, qui a participé à l'élargissement de mes lectures, et bah, j'ai lu d'autres choses. Et du coup, là, il me manquait quelque chose. Mais par contre, pour des jeunes lecteurs, c'est franchement le top du top, avec des éléments épiques, des codes connus, un petit peu de clichés, parce que ça fait jamais de mal, un petit peu de clichés, des personnages intéressants. Et vraiment, je le recommande pour les jeunes qui veulent quelque chose d'accessible, mais pas non plus de trop gnangnang. Vous pouvez y aller les yeux fermés, ça vaut le coup.
Yeah.
Alors, on change un petit peu d'ambiance. On va parler, plutôt que de parler de young adult et des dérivés de la littérature de KPDP, on va parler des origines profondes du KPDP, parce qu'on a décidé de vous créer une nouvelle chronique avec un jingle minimaliste, comme c'est si bien les faire, monde imaginaire. C'est le vide-grenier. On va chercher au fin fond du fin fond de ce qui est vieux, puis on vous ressort deux, trois trucs un peu rigolos.
Sous l'étoile d'araignée, quoi.
Exactement. C'est un peu ce que j'ai fait, sauf que je l'ai lu en e-pub, donc c'était un petit peu remis en page. Mais je vais vous parler des Trois Mousquetaires, ce qui est un peu, pour moi, la base de la base, le best du KPDP, ce qui a un peu lancé aussi la tradition, si je ne me trompe. Mais il faut quand même que je vous dise une chose. Les Trois Mousquetaires, c'est d'abord une espèce de double arnaque. La première, c'est que c'est écrit par Alexandre Dumas. L'avantage d'Alexandre Dumas, c'est qu'ils sont deux. Donc, ils ont deux fois plus de romans pour un seul nom. On ne sait jamais d'ailleurs si c'est le père ou le fils qui a écrit. À noter que pour les Trois Mousquetaires, c'est le père. La deuxième arnaque, c'est que ce bouquin s'appelle Les Trois Mousquetaires. Sauf que ce n'est pas l'histoire des Trois Mousquetaires, en vrai. On nous vend des mousquetaires qu'on va juste voir de place en place de temps en temps. L'histoire ne raconte pas l'histoire des Trois Mousquetaires. Et pourtant, comme je l'ai dit, c'est un peu le best des KPDP, c'est un peu ce qui a donné le bossu, c'est ce qui a donné plein de films sur D'Artagnan, ça a même donné une série animée qu'on aime toutes les trois et dont on a parlé tout à l'heure en off, qui s'appelle Albert et le cinquième mousquetaire. Comment dire ? Les Trois Mousquetaires, c'est la base, quoi. Et puis, enfin... Il faut le dire, on aurait pu aussi le mettre en chronique adaptation. Parce que les Trois Mousquetaires, c'est un peu donné plein de petits, en film, en BD, en jeu, il y a un peu tout ce qui existe.
Des trucs très mauvais aussi, d'ailleurs. Hein.
Genre le dernier... Il y a d'ailleurs un film que j'ai vu qui s'appelle Richelieu, ou Les Mousquetaires de Richelieu. Non, j'ai vu ça que sur Allociné, j'ai même pas eu le courage de lire le résumé, mais ça, on aurait pu mettre en daube. Oui, sachez, chers auditeurs qui aimaient notre émission et qui nous suivaient, que cette semaine, il n'y aura pas de daube. Donc, c'est une vieillerie qui est tirée du grenier et qui date de 1944 et qui a été publiée entre le mois de mars et le mois de juillet. Oui, je dis bien entre, parce qu'en fait, il a publié ça en chapitre dans une revue qui s'appelait Le Siècle. Et donc, ce qui est assez cool, c'est que ça peut se lire en épisode. On peut à plus ou moins arrêter de lire Les Trois Mousquetaires à la fin d'un chapitre, puis se dire « bon, voilà, j'arrête ». Puis reprendre plus tard. Donc, ça, c'est le truc qui est pas mal. Je vous ai parlé d'une double arnaque. Le deuxième point de l'arnaque, c'est qu'effectivement, on vous parle uniquement plus ou moins de D'Artagnan, un jeuneau de 18 ans qui est gascon et qui tombe amoureux d'une belle mercière quand il arrive à Paris. C'est un roman d'apprentissage. Son père, à D'Artagnan, lui dit « Hé, mon fils, tu dois aimer trois personnes, le roi, le cardinal et Tréville, enfin monsieur de Tréville, et donc tu vas aller à Paris, contacter monsieur de Tréville avec qui j'étais pote quand j'étais petit, et puis devenir mousquetaire, parce que ça, c'est l'avenir, mon fils. » Donc il va partir de Gascogne, il va se taper sur la tronche avec deux, trois personnes, parce qu'il se vexe assez vite, il est un peu sang chaud, et puis il apprend la vie. Et c'est là qu'il rencontre les mousquetaires. Ah ah ! L'intitulé, Les Trois Mousquetaires. C'est, je crois, le quatrième ou cinquième combat du bouquin, où en fait il défie à la suite Athos, Porthos et Aramis. Il sait bien qu'en fait, comme il va affronter des mousquetaires, il a assez peu de chances de survie. Et puis c'est comme ça qu'il devient pote avec eux. Et puis par amour pour sa belle mercière, il va entrer au service de la reine. Parce que théoriquement, il est plutôt au service du roi, parce qu'il ne pourra pas devenir mousquetaire. Haha, je vous disais que c'était une arnaque. Il sera cadet dans une armée du roi. Je ne sais plus laquelle, j'aurais dû noter. Et en fait, ce qui compte finalement, c'est qu'il travaille pour la reine ou le roi. Il est surtout anti-Richelieu. Donc moi, ce que j'ai à dire sur ce bouquin, c'est que même si c'est vieux, Il n'y a pas à chier. C'est un livre qui est écrit à l'ancienne mode, 1844, je disais, donc avec un texte assez... à l'ancienne. Mais les phrases sont assez courtes, les phrases sont punchy. Alors ouais, il y a des fois des mots qu'on ne comprend pas. Puis quand on met sur sa liseuse dictionnaire pour des trucs comme alguésil, et en fait, la liseuse, elle dit « je ne sais pas ce que c'est ». Donc après, on va ouvrir le petit Robert, puis on sait ce que c'est. Mais disons que ce n'est pas gênant, ça n'empêche pas la lecture. Et si vous l'avez lu quand vous étiez à l'école, vous étiez probablement trop jeune pour le lire. Donc relisez-le, c'est vraiment cool à relire, c'est punchy, c'est sympa. Comme je le disais, c'est en chapitre assez court, vu que ça paraissait dans une revue, donc c'est assez chouette. Et puis surtout, c'est vachement moins empoulé que d'autres romans de KPDP, comme par exemple Le Capitaine Fracas de Théophile Gautier. Personnellement, je l'ai lu et je me suis fait chier. Donc lisez La Base, Les Trois Mousquetaires, puis comme ça vous aurez une assez bonne idée de ce que ça donne. Pour la musique de la fin de ma chronique, faut que je vous en parle, parce que vous allez perdre une ou deux oreilles au passage. C'est un très très vieux son, parce que comme je sortais des vieilleries, autant passer de la vieillerie en termes de musique. Des Trois Mousquetaires a été tirée une mini-série qui s'appelle D'Artagnan, qui faisait 4 épisodes. Hein. Donc les épisodes étaient assez longs, mais c'était que 4 épisodes, qui date de 1969. Donc le son est bien pourrave, mais au moins on reste dans le thème. Je suis un livre.
Non, je suis une BD.
Non, 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 je suis un film.
C'est génial parce qu'on n'a pas de chronique d'aube, mais alors nos musiques, ça vole pas très haut non plus, hein, ça compense.
Oui, je pense que ça va compenser.
Alors, vous l'aurez compris, c'est le moment de l'adaptation. L'adaptation avec un bouquin que Anne a très rapidement nommé, à savoir Le Bossu de Paul Féval. Le Bossu, pas Le Bossu de Notre-Dame, hein. Le Bossu, celui d'où est tirée la phrase « Si tu ne vas pas à la Gardère ira à toi ». Presque aussi connu que le « Un pour tous et tous pour un ». Enfin, je pense, j'espère.
Ça va.
Non, moi je connaissais pas du tout.
Un culte. C'est pas grave, alors tu vas te rattraper avec la chronique. Lagardère est un chevalier décidé à venger le duc de Nevers, plus ou moins son ami, assassiné par Philippe de Gonzague, son cousin, donc le cousin du duc de Nevers. Faut vous accrocher avec les liens familiaux dans ce bouquin. Et donc, Lagardère décide de ramener Aurore, fille de Nevers, à sa mère, donc la mère d'Aurore, la femme du duc de Nevers, pour qu'elle puisse toucher son héritage et retrouver sa famille et pour éviter que Philippe de Gonzague ne touche tous les titres de l'homme qu'il a fait assassiner. Gonzague, évidemment, est décidé à tuer Lagardère et Aurore pour profiter de la fortune de son défunt cousin. Mais Lagardère, qui n'est pas juste un beau chevalier, a de la suite dans les idées et décide de se déguiser en Bossu, personnage hideux qui gagne la confiance de Gonzague pour mieux le berner. Alors, Le Bossu, c'est un classique. Il y a deux, trois éléments un petit peu bizarres, comme une vague histoire d'amour entre Aurore et Lagardère, alors que Lagardère l'a un peu élevé comme sa fille pendant toute sa vie. Il y a une grosse différence d'âge entre les deux. C'est un peu glauque, un poil incestueux. On n'est pas au niveau des Lannister, mais quand même.
Pour ceux qui n'aiment pas Game of Thrones, c'était une allusion à Game of Thrones, au
Merci
cas où.
Anne. Mais voilà, c'est assez chouette de se retrouver au Paris du 18e. Ça varie un petit peu les plaisirs parce que les Trois Mousquetaires, eh ben, y en a à toutes les sauces aujourd'hui. Et Le Bossu, ça change un petit peu et puis ça permet de découvrir ce personnage hideux qui, en même temps, était assez intrigant à l'époque. Il y avait des tas de légendes autour de ces personnages. On disait qu'ils étaient laids mais très intelligents pour compenser leur laideur. On disait que ça portait bonheur de toucher leur boss. Bref, plein de mythes autour de ces personnages. Le Bossu de Paul Féval, publié aussi sous forme de feuilleton-feuillet, mais en 1857. Donc effectivement, on sort de... C'est cette descendance des Trois Mousquetaires. Et il a fait l'objet de très, très nombreuses adaptations. Pas autant que les Trois Mousquetaires, cela dit, mais quand même pas mal. Et alors moi, je vais me focaliser sur deux d'entre elles. La première, qui est sortie en 1959 avec Jean Marais et Bourvil, qui est vieillotte, ouais, il y a des scènes un petit peu longuettes, des femmes en pamoison, le jeu d'acteur est tout à fait discutable, mais...
Ouais, mais Bourvil.
Mais il y a Bourvil. Bourvil est génial. Alors, c'est pas lui qui joue Lagardère, rassurez-vous, parce que quand même, faut coller un petit peu au personnage.
Ça aurait été super.
Ça aurait été génial. Non, c'est Jean Marais qui fait Lagardère et donc le Bossu. D'ailleurs, j'ai préféré voir Jean Marais dans son rôle de Bossu que dans son rôle de Lagardère. Et Bourvil est juste incroyable. Enfin, il donne une âme à ce film. La deuxième adaptation sur laquelle je me suis focalisée, c'est un bossu un petit peu plus récent, 1997. C'est un film de mon enfance avec Daniel Auteuil. Et alors là, on est dans une version quand même un poil plus simplifiée que la version de 1959. C'est vraiment, on voit que le film a gardé la trame de base et qu'ils ont éjecté toutes les fioritures. Alors après, le bossu, c'est un sacré pavé. Hein, si on lit toute l'histoire, c'est un gros pavé. Du coup, ça devient difficile d'être fidèle à une œuvre pareille. Et je pense qu'il faut vraiment voir ces deux films, donc celui de 59 et celui de 97, comme deux films indépendants plutôt que de les voir comme plutôt que de les comparer. En fait, ils sont pas du tout comparables. Il y a 40 ans qui les séparent, donc on est vraiment dans deux films totalement différents. Après, il y a une valeur sûre, hein, c'est que dans la version de 59, dans la version de 97, Aurore, elle est chiante. Ça, il n'y a rien à y faire. C'est un personnage chiant. C'est mon regret par rapport au bouquin et par rapport au film. Et voilà, moi j'aurais bien voulu avoir d'autres bouquins qui nous parlent un peu de ces personnages de bossu au 18e, etc. Autre que le bossu de Notre-Dame où on pleure sur le sort de Quasimodo, c'est un peu gonflant au bout d'un moment.
Mais peut-être qu'en fait tu aimerais, il faut savoir que Paul Féval avait aussi un fils, c'est comme Alexandre Dumas. Et comme le fils Dumas, il a aussi décidé de copier son père et qu'il a fait une pièce en 1908 qui s'appelle Le fils de Lagardère.
Oui, j'ai vu passer ça. J'avoue que le pavé du bossu est tellement lourd et aussi un peu difficile à lire, difficile d'accès, il faut s'accrocher. Hein, mais après, ça vaut le coup. Il est aussi, il y a des phrases très punchy et tout. Mais ouais, je me suis dit que ça, Le fils de Lagardère, j'irais bien...
Surtout qu'il en existe apparemment une adaptation cinématographique italienne que je n'ai pas trouvée, qui date de 1900, je ne sais plus combien, en film.
Ah bah voilà.
1952. Donc à trouver, c'est un peu chaud, mais.
Eh ben, je note voilà. Et j'espère.
Mais peut-être qu'il y aura pas Aurore du coup. C'était ça le propos. Tu disais qu'elle était chiante, alors peut-être qu'il y a pas Aurore.
Oui, ce serait chouette. Bref. Donc voilà. Si vous savez pas quoi regarder ce soir, eh ben moi je vous conseille de jeter un petit coup d'œil au bossu, que ce soit la version avec Jean-Marie Bourvil ou celle de Daniel Auteuil, elles sont top.
Et puis il existe une version de 2003 avec Bruno Volkovitch en téléfilm. Alors il est pas facile à trouver, mais il est assez fun.
Et voilà vos recommandations de lecture et de visionnage film et série pour les 3 mois à venir.
Si tu ne viens pas à Lagardère ira à toi! We'll be right back.
Alors, je vais vous parler de quelque chose qu'on pourrait avoir des doutes à classer dans la thématique de KPDP. Ça s'appelle les lames du cardinal de Pierre Pével. Et comme c'est Pierre Pével, on se dit qu'il y a des dragons, certes. Il y a une réécriture de l'histoire, certes. Mais c'est une histoire qui se passe en plein milieu de la période de KPDP, donc entre le 15e et le 18e siècle, selon les différentes encyclopédies en ligne que j'ai pu consulter. Donc en l'occurrence, ça se passe en 1633. Ensuite, dans ce roman, on croise les bons personnages, le fameux duc Armand Jean Duplessis, dit cardinal de Richelieu, Louis XIII, sa femme, bien entendu, Anne d'Autriche, parce que s'il n'y a pas la reine, c'est pas marrant. Rochefort, son âme damnée. On croise aussi les trois mousquetaires, alors pas tous. Je crois qu'on croise Athos, on parle une fois de Porthos, et puis il n'y a pas du tout Aramis. Mais il y a quand même les trois mousquetaires dans l'histoire. Et puis on se retrouve justement dans cette bonne époque où il y a des tensions en Europe, entre l'Angleterre, la France, l'Espagne. Donc c'est un roman de cap et d'épée. Ou du moins une réécriture du roman de cap et d'épée. Notre personnage principal s'appelle Étienne-Louis de la Fargue. Il est capitaine des lames, ou plutôt, devrais-je dire, ex-capitaine des lames du cardinal, parce qu'au siège de La Rochelle, 5 ans plus tôt, donc le fameux siège où le cardinal de Richelieu a fait un blocus pour empêcher l'Angleterre de protéger cette ville protestante que le roi voulait convertir au catholicisme, une de ses lames, donc un de ses guerriers, en a tué un autre. Ça a fait une très mauvaise pub et du coup, il a été désavoué par le roi. Donc, depuis 5 ans, il n'a plus de job. Bien entendu, il n'a plus de sol. Donc voilà. Et il est quand même resté un peu en contact avec ses lames. Et quand il est rappelé par Richelieu, qu'il avait lui-même foutu dehors, il hésite un tout petit peu à recréer les lames du cardinal. Il finit par le faire. C'est quand même une des meilleures lames du royaume et il sait que ses camarades seraient aussi partants pour repartir à l'aventure. Et donc, après les premiers chapitres, on se retrouve avec les lames du cardinal recréées et puis un personnage un petit peu blessé, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il y a une de ses lames qui est morte. Bon. Donc, on se retrouve vraiment avec l'histoire des trois mousquetaires, mais cette fois, du côté de Richelieu. C'est comme si, Richelieu avait aussi sa garde personnelle. C'est comme si les lames du cardinal étaient la garde personnelle de Richelieu.
Le dark side.
Oui, alors le dark side, il a un dragonnet qui s'appelle Petit Ami. Donc le dark side, il en prend un tout petit peu un coup.
Bah, le dark side, il donne aussi des cookies, hein, donc...
Non mais genre, à ce côté-là, il aurait pu avoir un chat.
Oui, il aurait pu avoir un chat. Mais parce qu'il faut savoir qu'en fait, dans les lames du cardinal, au lieu d'avoir un chat, un chien ou un perroquet, tu as un dragonnet.
Je peux troquer mes chats contre des dragonnets aussi.
Je pense que c'est un peu plus chiant à nourrir. Mais donc voilà, j'ai vendu la mèche déjà dans mon introduction en disant que c'est du Pierre Pével. Donc il y a des dragons. Bah oui, il y a des lames, il y a des capes, il y a des épées. Mais il y a aussi des dragons. Donc effectivement, on peut avoir un dragonnet comme animal de compagnie. Et puis surtout, il y a les grands dragons. Tu parles du dark side, là. C'est le dark side, les grands
dragons.
Le dark
side, le dark side, le dark side.
Exactement. Ça s'appelle en fait dans ce roman La Griffe Noire. C'est un fonctionnement un peu à la franc-maçon. Ils essayent d'ouvrir une loge à Paris. Il y en a déjà une en Espagne qui est hyper puissante. Et puis les dragons sont âgés, sages, dangereux, prennent forme humaine et peuvent devenir de plus en plus jeunes grâce aux runes draconiques et en se baignant dans du sang de dragon. La première scène du bouquin, c'est cette bonne femme toute flasky qui rentre dans un bain de sang qui se met à bouillonner et puis en fait qui ressort genre wouh, toute pimpante, toute jolie, hyper sexy et bien entendu hyper intelligente vu que c'est un dragon millénaire.
Putain, Cléopâtre, elle peut laisser habiller avec son lait d'ânesse. Hein.
C'est un petit peu ça. Et puis le problème, c'est que cette bonne femme a déjà conquis le salon de la reine. Et que comme la Griffe Noire a déjà conquis la cour d'Espagne et que la reine en plus a des origines espagnoles, ça commence à se tendre un petit peu pour le roi de France. Voilà, en quelques mots, les lames du cardinal. Je ne sais pas vraiment si j'ai réussi à vous donner envie de lire ce bouquin. Je ne suis pas convaincue. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, moi, j'ai adoré ce bouquin, qu'il est super, qu'il est bien écrit, qu'il est intelligent, que c'est une très belle réécriture du roman de KPDP. Il est punchy, on s'ennuie jamais. Et même si c'est une trilogie... on a envie d'en savoir plus. Quand on referme le bouquin, on est tout triste parce qu'on aimait bien Étienne-Louis de Lafargue et même la dragonnesse méchante de la Griffe Noire. Donc ça vaut vraiment la peine. Ça a eu tellement de succès qu'il y a même un jeu de rôle qui est sorti en 2004 aux éditions Sans Détour. Et puis voilà, faut lire quoi. Je pense que c'est à peu près la seule chose que je peux vous conseiller.
Ou jouer.
Ou jouer. Ou jouer, mais ah, pour ça, il faut avoir un maître de jeu.
Ah, ça.
Donc voilà, si jamais vous n'avez pas de maître de jeu, je vous recommande chaudement Les Lames du Cardinal de Pierre Pével. Et puis comme j'ai décidé de ne choisir que des musiques cheloues pour clore mes chroniques de cette émission, je vous ai choisi la bande originale du film Arrietty. Oui, oui, des studios Ghibli qui ne racontent pas du tout des romans de KPDP. Ce qui est intéressant, c'est la texture de cette musique, un peu celtique, un peu harpe, qui est jouée par Cécile Corbel. Et si je choisis du Cécile Corbel, c'est parce qu'elle avait joué dans une comédie musicale qui s'appelait Anne de Bretagne. Et puis comme la reine, elle s'appelle Anne d'Autriche, le lien, il était facile à faire.
Répété 300 millions de fois.
Imaginez un renard français et un loup espagnol ferraillant côte à côte pour ou contre d'autres humains. Un lapin les rejoindra pour les aider dans leur quête qui, commençant par une bête chasse au trésor, finira sur la lune. C'est dans une BD que Jean-Luc Masbou et Alain Airales nous emmène dans ces bandes dessinées qui s'appellent De Cap et de Croc, qui ont été écrites entre 1996 et 2016. Il y a 10 tomes, plus 2 qui sont en fait des tomes de préquels et qui racontent l'histoire du lapin. Parce que pendant les 10 BD, Eusèbe, le lapin, va essayer de raconter son histoire, mais à chaque fois, une péripétie arrivera et il n'arrivera jamais à raconter son histoire et les quelques éléments qu'il essayera de placer, feront rire toute l'assistance parce qu'un lapin en tant que lame du cardinal, c'est un peu étrange.
Non mais c'est surtout qu'en fait, les auteurs ont eu pitié de leur propre personnage.
Je pense que c'est un petit peu de ça, ouais. Ou alors c'était justement pour introduire ensuite ces deux hors-série qui racontent la vie de Zeb. Alors, qui sont ces deux fines lames? Alors, le renard est Armand de Maupertuis. Le loup est Don Lope y Sangrin. Pourquoi un renard, pourquoi un loup, alors que tous les autres personnages, ou presque, sont des humains? En fait, il semblerait que ces deux protagonistes soient tirés du roman de Renard. Parce que si on regarde le loup, Don Lope, Isengrin, ça nous fait repenser au loup compagnon de Renard qui s'appelle Isengrin. Isengrin, Isengrin. Ok. Pour le renard, Maupertuis est le nom de la forteresse Goupil dans le roman de Renard.
Waouh!
Ah, c'est recherché, c'est recherché.
T'as fait vachement de recherche pour cette chronique.
N'est-ce pas, n'est-ce pas? Par rapport à Eusèbe le lapin, j'en ai strictement aucune idée. Par contre, c'est un personnage qui va rajouter quand même un brin de subtilité, de douceur et de naïveté parmi ces deux bretteurs qui sont tout en courage, mais pas forcément en subtilité. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette bande dessinée, c'est que les combats se font au fil de l'épée, mais aussi à la pointe de la plume. Par exemple, vois ton idole au ciel, aux cieux froncés, son œil blafard. Ôte-toi du passage et jette au loin ton dard. Veux-tu qu'en bloc de sel je te métamorphose ? Cessez donc d'agiter sous mon nez cette chose. Précisez-moi plutôt le pourquoi, le comment de cette mascarade et de ce boniment. Mais il parle en alexandrin. Peu couramment, hélas. Aussi, je vous propose, si cela vous convient, de converser en prose.
Encore un lien, en fait, avec le roman de Renard.
Exact. Il y a une autre particularité. Je voulais un petit peu spoiler, ils vont arriver sur la Lune. Sur la Lune, l'argent, ce n'est pas de l'espèce en or sonnante et trébuchante. Ce sont des poèmes. De nouveau, nous avons un grand... comment dire ? Une grande mise en valeur de la langue écrite. Et nous pouvons par exemple aussi le voir dans un autre tome qui s'appelle Chasseur de chimères. Réglons cette affaire à la rixme. Qu'est-ce cela ? Un duel ? Au premier sang ? Au dernier mot ? Donc à chaque fois, il y a cette dualité entre le combat à l'épée, qui est sanglant, et le combat au verbe, qui est plus piquant, je dirais. Quand je parlais des poèmes comme monnaie d'échange, ça fait référence à Cyrano de Bergerac, par exemple. Mais il y a aussi plein d'autres références au théâtre, à la littérature, au cinéma. Par exemple, Molière, Shakespeare. Mais aussi, on pourrait voir quelques traces de Rambo ou d'Alien. Je vous laisse les trouver dans les 12 tomes.
De Rambo ou d'Alien.
Exact. Je t'ai dit, j'ai fait beaucoup de recherches.
Ouais, puis la Lune, ça perturbe personne. Enfin, moi, je suis désolée, ils tombent dans la Lune. Enfin,
non, ils tombent pas.
Enfin, non, ils vont sur la Lune, je veux
ou
dire.
Ou plutôt, ils s'éjectent vers la Lune.
Ouais, donc ça va, tu m'as perdu.
Jules Verne, quoi.
Oui, Jules Verne, oui, bien sûr. Mais bon, ah, pardon, ça... moi, je me suis arrêtée aux animaux qui se baladent au milieu d'humains et ils séduisent des humaines.
Oui, ils séduisent des humaines. Ils séduisent des humaines qui aiment beaucoup caresser leur fourrure. Donc, en plus, ce sont des animaux qui sont vraiment perçus comme des animaux. Mais quasiment tous les personnages trouvent ça normal, sauf quelques-uns qui se disent « Tiens, un renard qui parle !» Mais c'est tellement juste anecdotique que ça en devient presque « Bah oui, un renard qui parle !»
Évidemment.
À part ça, ça m'a fait penser à quelque chose. Tu parlais justement de poèmes pour gagner des combats,
ouais,
comme dans Cyrano de Bergerac. Si jamais vous avez envie de vous exercer à ce genre de choses, il existe un jeu de société qui s'appelle Cyrano, où on reçoit un thème, mm-hmm, et puis on reçoit des mots obligatoires, puis on doit écrire des poèmes. Donc voilà, que tu parles
non.
de ça, et ça me fait vraiment penser
non,
à
non.
ça.
Alors, pas du tout. Pas pour moi. pas pour moi. La prose, ça va. Et encore, j'écris mal. Les poèmes, non, ça ira, et les alexandrins encore moins.
Donc voilà, c'était juste un aparté qui n'avait aucun sens.
Cette patte est enflée. Une crise de gouttes. Misera sementes, c'est le contraire exact. Que ressentez-vous donc à ce léger contact ?
Aïe !
Vous n'êtes point goutteux. Pas plus qu'apoplectique. Ce qui sillant ce nerf suit ici nos sciatiques, s'instillant, tâtonnant et titille au tendon, c'est une humeur maligne.
Oh, je meurs.
Pardon ? Cette humeur a pour nom l'anorexie.
Alors, qu'est-ce donc que cet aparté un peu étrange ? En fait, De Cap et De Croc a été adapté. Je vous explique. Dans chaque tome, les deuxième et troisième de couverture peuvent être plein de choses différentes. Ça peut être des planches un peu inédites qui font le lien entre les différents tomes. Ça peut être des plans, parce qu'on a un savant qui est Bombardus qui fait des machines complètement folles. Et dans le quatrième tome, on a une petite annexe qui s'appelle l'impromptu du quatrième tome, de l'acte 4, et qui est le médecin imaginaire. Cet impromptu de l'acte 4 a été adapté à Versailles en 2002 par la compagnie des Deux Rives et a été repris par les Mille Chandelles.
Donc, ça ne fait pas un peu malade imaginaire plus médecin malgré lui ?
Ça ne fait pas un peu Molière ?
Ça oui, fait surtout ça, Molière. Ouais. Et en fait, cette pièce a été écrite comme la rencontre entre le renard et le loup. Et c'est avec justement ce médecin qui arrive, qui dit n'importe quoi et qui fait rire, il y a quand même des scènes de bataille et c'est là où le renard français et le loup espagnol se rencontrent pour la prise de drapeau. Le tome 1 et le tome 2 ont aussi été adaptés jusqu'en 2012, je crois, par la Compagnie des Masques. J'ai essayé de trouver des adaptations récentes ou quelque chose qui se passerait en ce moment, mais il n'y a plus rien depuis quelques années.
Même pas en dessin animé.
J'ai rien trouvé. Et pourtant, en dessin animé, ça pourrait vraiment être fun. Mais de nouveau, la langue est tellement bien maniée que je me demande si dessin animé ne veut pas dire enfant et si le degré de langue serait accessible à des enfants.
Parce que tu comprenais tous les mots de Robin des Bois quand tu étais petite.
Oui, bien sûr.
Oui, mais oui, moi aussi.
Bah oui.
En même temps, tu comprenais toute l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que
il y a différents degrés de lecture. Il y a différents degrés de lecture.
Je sais pas, tu comprends l'histoire, c'est des jolis dessins. Tu trouves que Marianne, elle est trop fun et puis elle joue au tennis. T'es contente, tu vois.
C'est vrai.
Je pense que là, on pourrait retrouver la même chose sans forcément se dire que c'est trop compliqué pour des enfants.
Ce serait un projet à leur soumettre.
Oui, je pense.
Donc, si vous voulez des beaux dessins, parce que c'est vraiment bien dessiné, de l'écriture qui est vraiment soignée, un humour qui est à rigoler tout seul dans le tram. Et des références, même si vous n'avez aucune référence comme moi, il y a quand même des trucs qui, deux fois, vous dit « Ah tiens, ça pourrait être ça ». Franchement, allez-y, c'est 12 tomes, c'est vite lu, très vite lu, et c'est juste génial. Je n'ai jamais aimé la mer. Croyez-moi, les paltoquets qui se gargarisent sur la beauté des flots, ils n'ont jamais posé le pied sur une galère. La mer, ça secoue comme une rosse mal débourrée, ça crache et ça gifle comme une catin acariâtre, ça se soulève et ça retombe comme un tombereau sur une orière, et c'est plus gras, c'est plus trouble et plus limoneux que le pot d'aisance de feu ma grand-mère. Beauté des horizons changeants et souffle du grand large, foutaise. La mer, c'est votre cuite la plus calamiteuse, en pire et sans l'ivresse. Je n'ai jamais aimé la mer et ce n'est pas prêt de s'arranger. C'est ainsi que commence « Gagner la guerre » de Jean-Philippe Jaworski. Et je coupe tout de suite, Johanna.
Ouais, ou comment je me la pète en 15 lignes, là déjà direct pour commencer, genre moi je maîtrise la langue française.
Non, c'est juste tellement bien imagé. C'est genre, ça fait tellement du bien d'avoir une recherche de vocabulaire et d'être vraiment transporté par les mots précis.
Oui, non, alors j'exagère le trait, mais c'est vrai que, alors j'ai pas lu... Gagner la guerre, mais les bouts de Jaworski que j'ai pu lire, c'est vrai que j'ai eu l'impression du mec qui sait écrire, qui sait bien écrire et qui se la pète, quoi. Mais après, enfin voilà, hein, on peut se la péter quand on gère la langue française comme ça.
Merci.
Comme t'essaies de te rattraper, en fait. Elle te casse de ouf et bien tu dis oui, bon, d'accord, ok, t'as raison.
Non, mais ça se payera. Donc, Gagner la guerre, publié en 2009, par les Moutons électriques, de nouveau. Roman francophone, de nouveau. Ça fait du bien, surtout avec une maîtrise à ce niveau-là et de cette qualité-là.
Version 2.
De la langue française. Et qui nous parle de Giuseppe Benvenuto. Qui est-il? C'est un maître espion et assassin du premier podestat de la République de Ciudadela. Alors, qu'est-ce que Ciudadela? C'est une sorte de Florence de la Renaissance, un poil fantastique. Ce Giuseppe, sublimé par la plume de l'auteur, on va commencer à s'en attacher.
C'est bon, t'as fini les allusions toutes les 30 secondes.
J'étais obligée. Donc, on va s'attacher à lui, bien que ce soit vraiment un saligaud, un salopard, un traître, un tout ce que vous voulez. On va être dépassé avec lui par toutes les intrigues des grandes maisons de Tchoudalia et de la République. On va frissonner avec lui lorsque la magie, qui est peu présente, mais très intense, se fera sentir. Et moi, j'aurais vraiment pas voulu être à sa place. On va aussi avoir peur pour notre peau lors des combats violents et sanglants menés par le bout de la rapière.
Donc, attends voir. Si je comprends bien ce que tu dis, parce que je n'ai pas lu Gagner la guerre, honte à moi. En gros, c'est un salopard.
Ouais.
Puis comme t'aimes bien le dark side, ouais, t'aimes bien ce salopard.
Ouais.
Ok, cool. Je résumais. What?
C'était quoi?
Qu'est-ce
ça?
Qu'est-ce que c'est que ça?
Ce sont des bruits de rapière.
Oh ouais, mais alors et la rapière, ouais, elle fait splouche dans le slime, quoi.
Ah non, ce ne sont pas des bruits de rapière, ça c'était pour autre chose. C'est des coups de poignard dans quelqu'un. Voilà, ce qui est un peu plus.
Mais néanmoins, c'est pas très visuel.
Non.
Ça marche pas très bien quand on.
Je vais essayer de trouver avec plus de splotch et de cris, mais ça a l'air d'être fait dans un cadavre. Enfin, on sait pas trop.
C'est pas top.
Bref, ce qu'il y a aussi de génial avec ce livre, je sais, j'en rajoute des couches et des couches, c'est que tous les personnages sont complexes. Que ce soit Giuseppe Allais, que ce soit son maître, le premier podestat de la République, qui est Léonide Ducatore. Et pour vous montrer à quel point ce personnage est retorse, je vais encore vous lire un petit extrait.
À part ça, ils ont tous des noms à coucher dehors, on dirait tous des mois.
Des mois?
Des mois. Comme mon nom de famille, quoi. Ils ont tous des noms à coucher dehors.
Bon, à côté, ça fait un peu Renaissance italienne. Alors, t'as les,
podestat de la République, rien que le titre, quoi.
T'as les Ducatore, t'as les Mastigia, t'as. Enfin bref.
Je me la pète même en italien.
Vas-y, fais ta lecture, Jess, vas-y.
Je sers l'État, ce qui implique que je dois parfois lui sacrifier certaines valeurs. Mais c'est parce que la République est portée par des êtres tels que moi que les personnes de qualité, comme vous, peuvent se permettre le luxe d'une moralité sans faille. Maintenant que nous avons établi que nous ne sommes point de la même étoffe, madame, cédez-moi le passage. Je serai fâchée de vous faire la démonstration de mes mauvaises mœurs.
Wow. Alors, à lire, ça doit être au top. Mais alors, en audio, faut s'accrocher à tout ce qu'il dit, quoi.
Ben, en fait, c'est assez étonnant parce que je les ai lus, non, écoutés en audio, ce qui fait 37 heures d'audio à peu près. Je l'avais déjà lu avant. Et ça a été un vrai plaisir. Je pense que si on tombe sur quelqu'un qui sait vraiment bien lire, on arrive à quelque chose de juste jouissif pour même nos oreilles. Plutôt que ce soit pour les yeux, c'est aussi pour les oreilles.
Ok.
Donc on a aussi un personnage sombre qui est le conseiller du podestat, qui s'appelle Sassanos, qui est justement ce fameux magicien qu'on voit peu.
Grec.
Plutôt arabe.
Ah bah voilà. Mais tu vois, Sassanos, celui-là...
qui est donc ce magicien qui fait un peu sombre et froid dans le dos. Mais on a aussi la maison Mastigia, la maison Skarmitore, et toutes ces maisons ont en plus des protagonistes en leur sein qui ont leurs propres désirs, leurs propres intérêts dans cette république.
La morale de la littérature de KPDP, c'est qu'en général, il y a plein de noms, plein de familles qui se détestent tous, parce que ce soit que dans Le Bossu, ou dans Les Trois Mousquetaires, ou dans Gagner la guerre de Jaworski, il y en a un peu dans tous les sens. Tu voulais dire quelque chose d'autre et je t'ai interrompu?
Oui.
Ah pardon.
T'allais conclure en fait.
Oui, bah en fait j'allais résumer ce que t'avais dit, parce que j'ai l'impression qu'on avait fait le tour.
Non, ce que je voulais aussi dire, et ça me paraît important, c'est que ce livre n'est pas moral, dans le sens que Giuseppe Allais Benvenuto, il n'est pas là pour redresser des torts.
Voilà. Vas-y, fais-moi mentir, je t'en prie.
Il est là pour accomplir ce que son maître veut, et c'est pas un héros. Tous les personnages, sans exception, sont tous pourris. Alors, il y en a qui ont des buts plus ou moins louables, ce qui n'est pas notre cas. Ne pensez pas féminisme. Surtout pas, ça va vous gâcher le livre. Mais si vous voulez des intrigues, si vous voulez du sang, si vous voulez de la magie un peu bizarre, et si vous voulez de l'humour noir et du cynisme, le tout exprimé par une plume de maître, vous êtes au bon endroit.
Et après ça, tu as décidé de nous mettre du Laura Pausini?
Ben, pour finir
En beauté, ouais.
Mm-hmm. Bah, Laura Pausini, c'était Benvenuto. Et en fait, en regardant les paroles, j'ai trouvé assez ironique de remplacer, enfin d'essayer d'imaginer son Benvenuto par le Benvenuto de Jaworski. Et ça donnait un truc assez
D'accord,
marrant.
Donc, chers auditeurs, si jamais vous avez envie de comprendre l'humour de Jess, il faudrait falloir aller écouter le titre de Laura Pausini une deuxième fois et de lire le Google Trad. Bon courage.
Ma vai dove ti portano i piedi e lo sai che sei libero nelle tue scarpe fradicie. A chi ha parole cattive soltanto perché non ha saputo chiarire con sé, a chi supplica e poi se ne dimentica. Un segreto da sussurrare, ma una bugia da sciogliere. A chi non chiede perdono, ma lo avrà. Benvenuto a un pianto che commuove, ad un cielo che promette neve. Benvenuto a chi sorride, a chi lancia sfide, a chi scambia i suoi consigli coi tuoi.
Programmateur de la fabrique, programmateur musical donc. Hein. Si tu nous écoutes, on n'avait pas de daube dans cette émission, donc on a remplacé la daube littéraire par de la daube musicale. J'espère que tu nous aimes quand même, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'on a touché une certaine forme de fond.
Alors, je ne sais pas comment je suis censée enchaîner après ça, ça va être très compliqué. Donc, en prise de notes, si vous ne devez lire que deux choses en KPDP, on vous conseille de Cap et de Croc de Jean-Luc Masbou et de Alain Erol, ainsi que Gagner la guerre de Philippe Jaworski, le tout sans Laura Pausini.
Ça, c'est clair.
Mais avec une bonne plume.
Oui, on l'aura compris. Merci, Jess. Je pense que quand on a fait ce genre de choix musicaux, on se tait.
Bref, chers auditeurs, après ces moments inspirants et pleins de bons fous rires, il est désormais temps de se quitter, de rengainer le fleuret et de ranger la cape, et de s'armer de patience pour la prochaine émission.
Et on se quitte sur un élément de bonne humeur, pour ceux qui se rappellent de Albert et le cinquième mousquetaire et son fameux tromblon spaghetti, comment faire du KPDP tout en bonne humeur.
Bye.
Bye. Bye.
Avec un tromblon chargé de spaghetti à la sauce bolognaise, c'est lui le meilleur mais le plus petit de tous les mousquetaires. Il se nomme Albert, Albert, Albert le cinquième mousquetaire. Pour sauver le roi d'un complot terrifiant, il combat Milady. Au trot de sa mule, filant comme le vent, il parcourt le pays. Il se nomme Albert, Albert, Albert le cinquième mousquetaire. Malin, rieur, c'est un vrai farceur, Albert le cinquième mousquetaire. S'il n'a pas été reconnu par l'histoire, c'est qu'à l'heure des honneurs, il préfère aller respirer l'air du soir et le parfum des fleurs. Hourra pour Albert, Albert, Albert le cinquième mousquetaire. Rusé, blagueur, il sera vainqueur, Albert le cinquième mousquetaire.